Vous savez, nous sommes le peuple de Dieu. Vous le croyez ? Je le crois, nous sommes le peuple de Dieu. Et il y a un homme, un roi, qui s'appelait Balaak, et qui avait un problème avec Israël. Israël, c'est 600 000 hommes qui étaient là, sortis d'Égypte, que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Et c'est une foule immense qui était dans un désert. Et vous pensez bien qu'une foule immense, comme Israël, le peuple d'Israël, ça se voyait de loin. Et Balaak a demandé à Balaam de venir et de maudire Israël. Ce roi avait quelque chose dans le cœur de mauvais à l'égard du peuple de Dieu. Et nous savons, nous connaissons les intentions et les désirs de l'adversaire à l'égard du peuple de Dieu que nous sommes. Son désir, c'est de détruire, diviser, égorger. Tant qu'il ne voit pas le sang, tant qu'il ne voit pas un cœur de l'enfant de Dieu blessé, il n'est pas content. Mais Balaam est venu, il a regardé ce peuple, il a dit, mais oh, Balaak, tu veux que je maudisse ce peuple, mais je ne vois rien qui peut m'inciter à le maudire. C'est-à-dire, il voyait le peuple de Dieu comme étant parfait. Et cet après-midi, Dieu nous regarde comme étant parfait. À ses yeux, Dieu ne voit rien de mal. Pourquoi ? Parce qu'il nous a mis en Jésus-Christ. Il nous a placés dans le creux du rocher, là où nous avons la faveur du sang précieux de Jésus, là où nous avons la grâce de Dieu avec nous. Dieu ne voit pas de défaut en son peuple. Alors je ne vois pas de défaut en toi, mon frère, ma sœur. Je ne peux que te bénir au nom de Jésus-Christ. Bénissez. Demandez à Dieu de bénir. Passez votre temps à bénir, à bénir et à bénir. Vous verrez que Dieu va rallonger votre vie sur la terre et il vous donnera des jours heureux. Des cheveux blancs, l'arthrose ne sera pas votre partage. Le rhumatisme mal ne sera pas votre partage. À une condition, que vous veillez à ce qui sort de votre bouche. Dieu vous donnera du repos. Et il va vous donner des jours et des jours et des jours. Vous ne croyez pas ? Alors Balaam est venu et a voulait maudire le peuple de Dieu. Et il répond à ce roi qui lui avait demandé de maudire Israël. Il lui dit ceci. Je vous le lis, c'est dans Nombre 23. Si vous voulez le prendre avec moi. Et il y a toute une histoire qui précède cette aventure de Balaam. C'est que Balaam a pris son ânesse. Vous vous souvenez de cette histoire ? L'ânesse de Balaam voyait plus clair que Balaam lui-même. L'ânesse pouvait voir dans l'invisible. Ce que M. Balaam ne voyait pas parce qu'il avait sous les yeux une couche de je ne sais quoi et qui l'empêchait de voir l'ange de l'Éternel qui était sur le petit chemin là où il devait passer avec son ânesse. Et Dieu a permis, c'est l'une des premières fois que j'ai vu ça dans la parole de Dieu, quand je l'ai lu, j'ai souri, ça m'a fait rire. Imaginez-vous, vous avez un chien, un chat à la maison et que vous êtes là en train de regarder la télé, en train de lire un bouquin ou la Bible. Le chat vient, se met sur la table devant vous et vous regarde et vous dit « Quel chapitre que tu lis ? Donne-moi le verset s'il te plaît. » Je peux vous assurer, si vous habitez au rez-de-chaussée, vous passez par la fenêtre. Et vous courez jusqu'à ce que vous vous éloigniez de ce chat. Pour quelle raison ? Parce que il n'y a que Dieu, le Dieu tout-puissant. Et c'est parce que nous sous-estimons sa grandeur, sa puissance, son autorité et son tout-pouvoir, il n'y a que lui qui peut faire parler un animal. Qui peut mettre la parole dans la bouche d'un âne. Oui ou non ?
Amen.
Alors ne sous-estimons pas la grandeur de notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Croyez que Dieu a tout pouvoir de gérer, de faire ce qui vous dépasse. Il est capable de faire. Et Balaam, je reviens à ce monsieur, il ne voyait pas l'ange qui lui faisait obstacle juste devant lui. Son ânesse le voyait. Et la bête, voyant l'ange avec l'épée à la main, je crois bien, ne voulait pas avancer. Alors Balaam lui donnait des coups de bâton. Mais avant cette histoire-là, cette ânesse était obéissante, je peux vous assurer. Quand Balaam devait aller quelque part avec son ânesse, la bête y allait tranquillement. Mais là, Balaam était sur un chemin de désobéissance. Et vous verrez bien que quand un enfant de Dieu est sur une voie de désobéissance, bien souvent, rien ne fonctionne. Il va toucher ça, 2 jours après ou 3 jours, ça va partir en fumée. Il va monter une situation ou acheter quelque chose, quelques mois plus tard, faillite. Il est obligé ou elle est obligée de vendre. Pourquoi ? Parce que quand on est sur une voie qui n'est pas selon Dieu, Dieu met des obstacles. Vous savez que Dieu, c'est lui qui dirige, enfin du moins, c'est lui qui permet à l'adversaire de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Rien ! Le diable ne peut rien faire si Dieu ne le contrôle pas. Alors, vous savez, Balaam, je reviens sur lui. Regardez bien avec moi. J'avais dit 23, juste pour vous lire le fait que M. Balaak voulait que Balaam maudit Israël. Au verset 23, après on reviendra pour vous, on rentre un petit peu dans l'histoire de cette ânesse qui a parlé. Regardez ce qu'il dit, au verset 5. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balaak et tu parleras ainsi. Dieu a mis la parole, des paroles dans la bouche de Balaam. Il retourna vers lui, et voici, Balaak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balaak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. » Voilà ce que Balaak, avec ses rois, ses alliances-là qu'il avait fait avec les autres rois, voulait que Balaam fasse vis-à-vis du peuple de Dieu. Alors Balaam répondit, il dit, « Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit ?» Et la Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes bénis, mes bien-aimés. Nous sommes un peuple béni. Et si dans nos vies il y a des échecs, nous devons revoir comment nous marchons avec Dieu. Nous devons nous arrêter, réfléchir et nous remettre en question devant Dieu et devant Jésus. Et remettre de l'ordre et vous verrez. Parce que quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. La Bible nous dit quand Dieu ferme une porte, aucune autre main ne peut venir pour ouvrir cette porte. Mais quand il l'ouvre, personne aussi ne peut la fermer. Et je crois que Dieu a ouvert par Jésus-Christ son Fils une porte par laquelle il y a une grande bénédiction pour son peuple. Aujourd'hui, les hommes parlent que du virus. Nous, nous parlons de bénédiction. Nous avons un discours qui est différent du discours du monde aujourd'hui. Le peuple de Dieu, c'est elle fait la différence. Elle est différente des autres peuples. Dans ce monde, il y a trois catégories d'êtres humains. Il y a le païen, il y a le peuple juif et il y a le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu, un peuple à part. Un peuple sur lequel Dieu veille jour et nuit. Réalisez-le et ne vous laissez pas effrayer par ce virus. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne devez pas trembler. Nous ne devons pas trembler comme le monde tremble. Oui, nous devons être soumis aux lois. Oui, nous devons faire comme il nous dit de faire. Mais nous ne devons pas laisser la peur et la crainte envahir notre cœur. Amen. Nous devons être prudents, oui. Et Balaam dit, comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serai-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et il dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Dieu nous a pris, il nous a séparés du monde. Il nous a mis à part. Quand il regarde le monde, il fait une différence entre nous et le monde. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël. Balaam, il dit que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Voilà un homme qui avait été mandaté pour maudire le peuple de Dieu. Son langage change. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis dans sa bouche des paroles complètement différentes de ce qu'il pensait. Vous voyez que Dieu a été capable de faire parler l'ânesse. Alors qu'est-ce que l'homme ? Il est capable, c'est pour cela Jésus dit, quand vous serez emmenés devant les tribunaux, ne craignez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit viendra à ce moment-là et il mettra dans votre bouche ce que vous devez dire. Vous vous rendez compte? Verset 20. Verset 16. Toujours, c'est Dieu qui met la parole dans la bouche de Balaam. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Regardez au verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Alléluia. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit, écoutez bien ceci, peuple de Dieu, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Quand Dieu nous regarde, à cause du sacrifice de son fils Jésus-Christ, à cause du sang que Jésus a versé à la croix, Dieu nous regarde comme étant propre, pur, sans péché. Et pourtant, vous, quand vous vous regardez, vous voyez des défauts. Ça, c'est le regard de l'humain sur l'humain. Mais le regard divin sur l'humain, quand on a Christ dans nos vies, Dieu nous regarde comme étant sans péché, sans défaut. Et bien souvent, nous devons laisser le Saint-Esprit nous transporter dans la place initiale que nous avons en Christ pour que nous puissions nous regarder comme Dieu nous voit. Parce que beaucoup, quelquefois, se regardent avec un regard humain et se dénigrent, se rabaissent, se sous-estiment, s'enterrent avant même qu'ils meurent. Il se culpabilise, il se fouette. Jésus a déjà été fouetté à votre place. Ne le faites pas. Mais humiliez-vous et retrouvez votre place initiale en Christ et regardez-vous comme Dieu vous voit. Vous verrez que votre vie chrétienne sera différente. Vous marcherez de manière plus légère, plus fluide. Votre marche sera beaucoup plus fluide, plus légère. Et vous courez. dans la carrière que Dieu nous a ouverte en Jésus-Christ. Regardez bien, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Alléluia. Rappelez-vous, avant que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, quel est l'ordre que Dieu a donné, l'Éternel a donné à Moïse, de chercher chaque famille israélite devait offrir un agneau sans tache. Et de mettre cet agneau, le sang, sur les linteaux et les poteaux des portes des maisons. Ce qui fait que quand l'ange de la mort est passé, il passait au-dessus des maisons et il allait frapper les maisons des Égyptiens, il frappait les premiers-nés. Pourquoi ? Le sang de Jésus qui est répandu à la croix du calvaire, Dieu l'a répandu sur nos âmes et ce sang fait en sorte que Dieu nous regarde comme étant parfait. Amen. Ce n'est pas fracassant comme parole, mais elle a son efficacité dans les cœurs. Quand un chrétien s'accroche et réalise ça, il n'est plus l'objet de ses pensées, ni de l'adversaire, et ni de qui que ce soit d'autre. Il a une assurance que Dieu lui donne. On peut confondre l'assurance avec de l'orgueil, mais c'est une assurance que lui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil. On descend un peu plus bas. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dieu est avec nous. Il marche au milieu de nous. Il est son roi. Jésus-Christ est notre roi des rois. L'objet de son allégresse. Oui, Christ est l'objet de notre allégresse. Nous sommes dans l'allégresse cet après-midi parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Dieu l'a fait asseoir à la droite de Dieu, à sa droite. C'est lui l'objet de notre réjouissance, de notre rassemblement. C'est lui qui nous met de l'allégresse dans le cœur. C'est le Christ ressuscité et vivant et présent au milieu de nous. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Voilà, ça vient. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Mon bien-aimé frère et sœur, tu es rentré peut-être fatigué, mais Dieu dit ceci, il est pour toi la vigueur du buffle. Alléluia. Avez-vous déjà constaté, regardé un buffle, quand il est là comme ça, vous sentez qu'il est capable de détruire un immeuble? Eh bien Dieu dit, je suis ainsi pour toi. Cette force, cette vigueur, Dieu dit, il est pour toi la vigueur du buffle. Et il te dit cet après-midi que tous les marabouts de Paris et de France et je ne sais où, d'Afrique ou des Antilles ou d'Haïti peuvent se réunir contre toi, mais ils ne pourront rien. Pourquoi ? Parce que Jésus est avec toi. Tu peux entendre du bruit dans ta maison. On peut te dire, on a fait ceci, tes parents ont fait cela, et que c'est à cause de cela, tes parents t'ont maudit, etc. C'est faux, archi faux, parce que Jésus est avec toi. Et quand Jésus est avec un homme ou une femme, eh bien, qui sera contre lui? Et là, il y dit ceci, l'enchantement, parce que contre ce buffle, contre du moins l'adversaire, quand il voit que tu es là, il te regarde, et tu le regardes, et il voit que tu ne baisses pas les yeux et que tu es là parce que ta force, tu vas la puiser en Christ, eh bien, je peux te dire, il recule au nom de Jésus-Christ. S'il dresse le front contre toi, toi aussi dresse le front. Montre-lui que tu n'as pas peur de lui. Pourquoi ? Parce que ton maître Jésus-Christ, il savait ce qui allait lui arriver à Jérusalem. Il commence à l'annoncer à ses disciples. Eh bien, il dressa son front, sa face contre Jérusalem et il y marcha. Et là-bas, ça a été le début de toutes ses souffrances. Il y a eu Jérusalem, ensuite il fallait qu'il aille à la croix du calvaire. Et vous savez tout ce qui s'est passé. Le mépris, le rejet, les coups, les crachats, les coups de fouet, la couronne d'épines qui lui ont été mis de manière brutale sur sa tête. En plus, il fallait qu'il aille jusqu'au mont Golgotha. Et une fois arrivé là-bas, ces hommes qui lui donnaient des coups pendant qu'il portait la croix, eh bien, on lui a dit, maintenant, on va te clouer les mains. Ils ont été sans ménagement. Ils ont pris les mains de notre Sauveur Jésus-Christ et ils l'ont cloué de manière brutale. Alors vous pensez que Christ, ayant accepté de subir autant de souffrances, va nous laisser choir comme ça? Non, mes amis, mes bien-aimés. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors n'ayez pas peur. Il se dresse, dressez-vous au nom de Jésus. David n'a jamais tremblé devant Goliath. Ils ont pensé, son frère a pensé qu'il était orgueilleux. Mais c'était de l'assurance qu'il avait. Il avait une foi parce qu'il avait déjà affronté le lion et l'ours. Quand un ours se dresse devant vous, il fait plus de 3 mètres. Et la patte de l'ours, c'est 3 fois ma main. Et quand un ours vous met un coup de patte comme ça, il peut vous faire aller jusqu'au bois de Vincennes. Vous rigolez? Mais David a affronté l'ours, qui est l'image de l'adversaire, comme Goliath qui faisait plus de 3 mètres. David avait déjà affronté l'ours. Et il avait déjà affronté le lion. Et il était devant Goliath, non pas en tremblant comme Israël et Saül, mais il était plein d'assurance. Alors, plein d'assurance, la Bible nous dit « courez dans la carrière qui nous est réservée, les yeux fixés sur Jésus ». Alors, David s'est mis à courir, il a été au torrent, il a ramassé 5 cailloux bien polis, il est revenu et il a dit « maintenant, Goliath, j'avance vers toi ». Il n'a pas dit « je me cache, je tremble », mais avec plein d'assurance, il a fait face à Goliath. Et nous voyons la suite de l'histoire, la pierre, une des pierres qu'il avait ramassées a été se loger précisément là, dans le front de Goliath. Goliath est tombé et le travail, le reste a été fait. Israël a été libéré de l'emprise des Philistins qui tenaient Israël dans l'esclavage. Écoutez ceci, je continue. C'était une petite parenthèse. L'enchantement, on le dit bien souvent, mais on ne le réalise pas. L'enchantement ne peut rien contre mon frère et ma sœur qui est là cet après-midi. Rien. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que les photos, les cheveux, les sorciers, les vêtements, tout ce qu'on peut, le sorcier peut avoir entre les mains, il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu bloque tout ce travail. Dieu dit, ça n'aura aucun effet sur mes enfants. Et vous savez, si Dieu pouvait nous montrer combien les marabouts en France, à Paris même, travaillent pour travailler sur ce peuple que nous sommes, combien ça travaille, combien ce nom, le nom de cette assemblée est prononcé par leur bouche. Et ils ont fait plusieurs de liens de trafic, mais ça s'est resté sans effet. Au nom de Jésus-Christ, oui. Et il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève, regardez bien, comme une lionne, et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Gédéon et les 300 hommes, ils étaient fatigués, mais la Bible nous dit, poursuivant, fatigués mais poursuivant toujours. Ils voulaient que l'ennemi soit terrassé jusqu'au dernier. Amalek contre Israël, Moïse priait sur la montagne, Aaron et Hur lui soutenaient les bras, jusqu'à ce que Dieu donnât la victoire totale sur Amalek. Ne laissez rien de côté, ne laissez rien d'inachevé dans les combats que vous menez contre cet adversaire-là. Mais tant que cet adversaire n'a pas été terrassé, vaincu complètement, continuez le combat. jusqu'à ce que Dieu vous dise, ça y est, je t'ai donné la victoire sur lui. Alors tu peux aller plus loin. Amen. Je finis. Moi, c'est du cachet, hein. C'est du vitamine C. Non, mais vitamine C. C'est pas la peine de l'enregistrer là-haut à la sono. Revenons un petit peu sur l'ânesse de Balaam qui a parlé. C'est intriguant, mais c'est réel, ça s'est passé. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je le crois. Par contre, si quelqu'un vient me dire « mon chat m'a parlé », j'aurais du mal à croire. Amène-moi le chat. 22, verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Regardez, pendant la nuit, hein, Dieu le visite cet homme et lui dit, puisque ces hommes sont venus, c'est-à-dire Balaak avait envoyé des hommes, des émissaires pour dire à Balaam, viens, viens et maudis-moi ce peuple. Alors, Dieu vint vers Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Dieu lui donne une ouverture, mais Dieu lui dit, tu ne feras pas ce que tu veux, mais c'est moi qui te dira ce que tu dois faire. Et en effet, dans le chapitre souvent nous avons lu, Dieu mettait les paroles dans la bouche de Balaam. Il dit ceci, Balaam se leva le matin, sella son âne, son ânesse, habituellement il le faisait pour faire ses affaires, et partit vers avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et pourtant Dieu lui a dit, vas-y. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Et là, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel, voilà, Dieu permet que ça soit écrit pour notre instruction. Se plaça sur le chemin pour lui résister. Réfléchissez bien avant de faire un crédit. Nous sommes dans des temps très difficiles. Avant d'acheter une voiture, une maison, je ne sais quoi d'autre, même un canapé, réfléchissez. Regardez bien si vous avez les moyens pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez dans lequel vous êtes engagé. Parce que vous pouvez être, pour beaucoup, un mauvais témoignage. Réfléchissez bien avant de vous engager dans quoi que ce soit. Je parle bien de crédit. Réfléchissez à 3 fois, 2 fois. Parce que quand j'ai lu ce passage, ce texte, quand il est dit « Dieu plaça et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister », c'est-à-dire pour bloquer les choses. Regardez bien ensuite la suite de la lecture. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Ni Balaam ni ses serviteurs ont vu l'ange de l'Éternel. L'ânesse de Balaam a vu l'ange de l'Éternel et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, c'est-à-dire prêt à attaquer. Elle se détourna du chemin, l'ânesse, et alla dans les champs. Du jamais vu. Une réaction de l'ânesse de Balaam. Balaam ne connaissait pas sa bête ainsi. La bête, voyant l'ange, il fait un coup de volant sur la droite et il dit, excuse-moi, mais je prends les champs parce que j'ai vu quelque chose que tu n'as pas vu. Regardez la suite. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse. Logique. Une attitude bizarre, inhabituelle de l'ânesse. Alors il lui met un coup de bâton. Et lui, il lui frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier. Vous avez vu ? Juste un sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon... Et là, ce n'est pas une lumière. C'est Balaam qui prend ce sentier. Regardez bien, Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça, regardez, dans un sentier, entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. C'est-à-dire, le chemin où tu étais avant, l'ânesse est partie dans les champs. Mais je t'emmène à un endroit où je vais te jalonner. Je vais mettre le long de ton chemin des barrières, des obstacles. Regardez. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Voyez combien Dieu est bon. Est-ce que nous sommes comme les disciples d'Emmaüs qui leurs yeux étaient comme empêchés de voir que Christ était là ressuscité? Que Dieu enlève toute forme d'obstacle qui nous empêcherait de voir Jésus, de le voir Dieu agir au milieu de son peuple. Moi, je dis, je crois que nous sommes un peuple béni. Je veux passer mon temps à voir que des bonnes choses au milieu du peuple de Dieu. Je veux, comment on dit ça ? M'habituer, comment on dit ? M'accoutumer à voir que des belles choses. Je ne vais pas passer mon temps à voir les défauts, les ceci, les... Non, je veux m'accoutumer, m'habituer à voir que des belles choses au milieu du... Je veux voir le peuple de Dieu comme étant un peuple merveilleux. Alléluia! Je veux, quand je vous vois, que Dieu me donne son regard, je vois un peuple merveilleux, un peuple béni. Et ça, c'est parce que l'amour de Dieu est dans le cœur. Quand l'amour est dans un cœur et l'amour prend le dessus, on ne voit que des belles choses. On ne voit que des bonnes choses. On ne souhaite que le meilleur pour le peuple de Dieu. Amen. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur. La bête se serra contre le mur et pressa. C'était une attitude inhabituelle de l'ânesse de Balaam. Balaam aurait dû dire, tiens, je descends de ma bête et je regarde ce qui ne va pas. J'essaye de comprendre. Non. Il insista. C'est-à-dire, il persévère dans une voie qui n'est pas celle que Dieu voudrait. Et l'ânesse se serra contre le mur, verset 26, c'est ça, hein, 25, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam, pour la deuxième fois, va frapper de nouveau sa bête. Chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, parce que la bête était soumise, obéissante, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais là, il y avait de la rébellion, il y avait de la résistance. Alors il frappa une deuxième fois l'ânesse. L'ange de l'Éternel, à nouveau, passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace. Vous avez vu, ça s'est réduit. Il y a eu le champ, un champ c'est vaste. Ensuite, ce petit sentier, c'est-à-dire Dieu fait en sorte qu'au fur et à mesure, il va resserrer le chemin. Et vous savez, Jésus, quand il devait aller à Golgotha, plus il avançait vers la croix, plus il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait marcher sur ce chemin. Quand vous allez en montagne, des fois il y a des tout petits sentiers. Il n'y a qu'une personne, les gens marchent à la queue leu-leu comme ça. Parce qu'on ne peut pas marcher comme un chemin vaste. C'est un petit sentier. Eh bien, Jésus, en allant à la croix, plus il avançait vers la croix, Golgotha, il y a un certain homme là, dont son nom nous est... On imagine que c'est Jean, etc. Aucun des 12, des 11 disciples qui restaient ont eu le courage d'aller jusqu'à la croix. Tous, sans exception, se sont éparpillés comme des mouches. Pourquoi ? Parce que seul Jésus pouvait passer par ce chemin. Et celui qui voulait un peu, quelque part en disant « moi je peux y aller », quand il commençait à réaliser les clous, la couronne, enfin tout ce que Jésus a subi, il a pris la fuite. Et il avait sur lui ce jour-là juste un drap. Pourquoi un drap ? Pourquoi pas une robe ? Et quand on a essayé de l'attraper, il a laissé son drap et il est parti tout nu. Il n'avait plus honte d'être nu. Lui, la mort, entre être nu et mourir, il a préféré être nu. Et nous, quelquefois, au lieu d'accepter de mourir avec Christ, quelquefois on préfère garder notre vêtement, on préfère cacher notre identité, on se dévoile pas. Mais il vaut mieux accepter de mourir que de garder notre vie. Il faut l'accepter, ça. Et là, je reviens sur Balaam. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite où Balaam était fait, il était coincé, il était bloqué. Et peut-être certains parmi nous cet après-midi, ils sont bloqués dans leur vie chrétienne, ils sont comme stoppés, ne pensez pas que c'est le diable. Le diable ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu lui permet de faire. Eh bien, si vous êtes bloqué, vous sentez que rien n'avance, faites comme Balaam. Regardez ce qui se passe. Il n'y avait plus d'espace. Le chemin se rétrécit. L'ânesse, au verset 27, vit l'ange. Ça fait 1, 2, 3 fois que l'ânesse voit et Balaam ne voit pas encore clair. L'ange de l'Éternel, et elle s'abattit, c'est-à-dire... Au lieu d'être sur ses quatre pattes, l'ânesse a dit, j'en ai assez, je tombe. Je plie les genoux. En effet, c'est vrai. Il a plié les genoux parce qu'il voyait l'ange de l'Éternel. Et Balaam était toujours sur son ânesse. Et l'ânesse fait tout cela, tout en tombant, Balaam, il est encore dessus. Alors regardez l'attitude de Balaam. La colère, il se met en colère. Et quelquefois, nous chrétiens, quand les choses sont bloquées, on lève le poing, on dit pourquoi, on commence à poser des multiples questions à Dieu au lieu de fléchir les genoux devant Jésus et de s'humilier, de chercher à comprendre pourquoi Dieu bloque les choses, pourquoi Dieu permet telle ou telle chose dans nos vies. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. 3 fois, il lève la main sur sa bête, sur l'ânesse. Pauvre bête, comme dirait l'autre. Verset 28, c'est là ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, même pour moi, que Dieu nous ouvre les yeux cet après-midi, pour qu'il nous aide à considérer qui nous sommes, où il nous a placés, quel est le pouvoir qu'il nous a donné, quel intérêt que nous avons à ses yeux. L'Éternel ouvrit la bouche. Dieu fait parler la bête. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, écoutez, le chat qui va vous parler, l'ânesse, le chien qui vous parlera quand vous êtes têtu. Il dit, que t'ai-je fait ? Qu'une bête pose une question à son maître. Il dit à Balaam, regardez la bouche, caricaturez les choses. Fermez vos yeux et regardez l'ânesse qui parle avec sa bouche. Vous voyez des publicités, on fait parler les chats, les chiens à la télé, même les chevaux. Oui ou non ? Eh bien, regardez l'ânesse qui dit à Balaam, que t'ai-je fait ? Moi, l'ânesse me parle comme ça, je suis déjà à 10 kilomètres en train de courir. Mais Balaam, qui est un homme sensé, il dit, l'ânesse lui dit, que t'ai-je fait ? Pour que tu m'aies frappé déjà ? Il sait compter l'ânesse. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire des choses comme ça. Il y a des humoristes dans le monde qui nous font rire sur toutes sortes de choses. Mais quand vous lisez la Bible, vous pouvez rire d'une sainte joie. Et là, l'ânesse dit à Balaam que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Il sait compter l'ânesse. Balaam lui répondit, imaginez-vous, vous êtes là, vous assistez à cette scène. Les deux serviteurs de Balaam étaient là. On nous a parlé au début de leur assistance, mais là on a l'impression qu'ils ne sont plus là, mais ils sont toujours là. Ils assistent à cette scène. Ils seront marqués toute leur vie. Il dit, Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Vous vous rendez compte? Il parle à son ânesse, il dit, tu t'es moqué de moi. En gros, tu te moques de moi. Je veux que tu ailles là-bas et tu t'affaisses, tu m'écrases la jambe et tu m'envoies dans le champ. C'est parce que tu t'es moqué de moi, dit Balaam. Si j'avais une épée dans ma main, je t'aurais tué. Mais il n'avait pas vu l'ange qui avait l'épée dans la main, celui-là. Il n'a pas réalisé que son ânesse était en train de le protéger. Parce qu'il aurait franchi, l'ange l'aurait tué. Et l'ânesse a été un instrument dans les mains de Dieu pour protéger son maître Balaam. L'ânesse, deuxième fois, dit à Balaam, parce que Dieu lui a ouvert la bouche, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté ?» Il lui rappelle que j'ai toujours été obéissant. Pourquoi aujourd'hui je suis rebelle? Regarde ce que je vois, toi tu ne le vois pas, Balaam. Tu as tellement tu es têtu, tu es obtus, tu veux aller jusqu'au bout de tes convictions, mais tu te trompes, Balaam. Arrête, reviens, fais demi-tour. Il lui dit, ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, Balaam lui répondit, non. Dialogue entre l'ânesse et son maître. L'Éternel, à ce moment-là, après avoir écouté, assisté à ce dialogue, donner la parole à l'ânesse, Dieu à ce moment-là, il vient et il ouvre les yeux de Balaam. Regardez, l'Éternel au verset 31, ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Mes amis, c'est exactement ce dont nous avons besoin cet après-midi. Je crois bien que c'est le serviteur d'Élisée. Élisée s'est réveillé tôt le matin. Il a vu toute l'armée des ennemis qui encerclaient le pays. Et il a certainement levé les yeux et il a vu l'armée des cieux qui était là au-dessus, qui entourait. Le serviteur d'Élisée arrive. Il se frotte les yeux, il arrive, et il voit les ennemis, humainement parlant. Et il est là devant le serviteur, devant l'homme de Dieu, et il dit, mais il y a l'ennemi qui est là. Élisée, il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Une fois que ses yeux sont ouverts, il a vu l'armée des cieux. Mais bien aimé, c'est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout est fait pour nous amener à regarder tout ce qui se passe ici-bas. Mais Jésus dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous et levez la tête. Nous devons lever nos têtes aujourd'hui plus que jamais. Parce que tout ce qui est fait dans ce monde est fait pour nous amener à regarder tout ce qui se fait ici-bas. Mais l'enfant de Dieu, le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons nous redresser. Ce n'est pas évident, nous devons nous redresser, changer de position et lever la tête pour que nos yeux attendent quelque chose de merveilleux qui se produira de manière spontanée, c'est-à-dire le retour de Jésus. Il n'y a que ceux et celles qui auront la tête levée en signe de « j'attends le retour de Jésus » qu'ils le verront. Ceux qui seront occupés à leurs affaires, à manger, à boire, je ne sais à faire quoi d'autre, comme du temps de Noé, ils passeront à côté. Inclinons notre tête quelques instants. Notre Père Céleste, je te remercie. Je te remercie pour ta parole qui nous a fait du bien et qui m'a interpellé, qui nous interpelle. Il y a tellement de choses, tellement d'ingrédients, que le Saint-Esprit se chargera de nous les rappeler en temps convenable. Et dans des situations auxquelles nous sommes et nous serons confrontés dans quelques temps, Seigneur, tu sauras venir et nous rappeler tout ce que tu nous as dit. Que ça soit aujourd'hui ou les temps précédents, à travers tes serviteurs, ce que nous te demandons, c'est de nous aider à ne pas oublier et à mettre de côté ta parole, mais à nous la repasser dans notre cœur jour après jour. Nous te remercions, Père Céleste, nous t'adorons. Tu es si bon envers nous. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.